La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être là pour une nouvelle série de la Compagnie des auteurs consacrée jusqu'à mercredi au Britannique Laurence Sterne, 1713-1768, dans une émission de Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Chloé Kaczmarek et Jean Frédérix. C'est d'un pasteur libertin, d'un écrivain excentrique du 18e dont nous allons parler jusqu'à mercredi dans la compagnie des auteurs, d'un homme qui a inventé une manière d'écrire d'une modernité incroyable avec seulement deux ouvrages, La vie et les opinions de Tristram Shandy et Un voyage sentimental auquel on pourrait ajouter sa nouvelle, un roman politique. L'une de ses citations restée célèbre en dit beaucoup sur son caractère, je vous la cite. Il faudrait savoir à la fin si c'est à nous autres écrivains de suivre les règles ou si c'est aux règles de nous suivre. Demain, c'est Guy Jouvet qui passera nous voir. Il est le traducteur de Stern pour les éditions Tristram, une maison d'édition nommée bien sûr d'après le roman de Stern. Mercredi, Françoise Davoine viendra psychanalyser Tristram Shandy, tandis que Madeleine Descargues nous parlera de la correspondance de Stern et de la teneur de ses sermons. Enfin, jeudi, pas de Laurence Sterne, mais un retour sur Joyce Carol Oates, sur qui nous n'avions pas tout dit, loin de là, lors de notre première émission la concernant, en octobre dernier. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour raconter la vie de Laurence Sterne, je reçois Cécile Gilbert. Elle a publié cette année le roman Les Républicains aux éditions Grasset, mais on lui doit aussi des essais, et notamment ce livre inclassable, qui est autant un roman qu'un essai, intitulé L'écrivain le plus libre. Elle l'a publié en 2004 dans la collection L'Infini chez Gallimard, et il traite donc ce livre de Laurence Sterne. Bienvenue à tous dans la compagnie des auteurs.
Je m'aperçois que dans cette autobiographie, je me suis étendu surtout sur la naissance et que j'ai parlé des phases successives comme de la suite de la mise au monde. Et voilà que je tends maintenant à revenir encore plus loin, au monde prénatal. Tel est le risque que court toute autobiographie dès lors que ressentie comme une exploration des origines. Ainsi de celle de Tristram Shandy, qui s'étend sur les faits qui ont précédé sa naissance, et lorsqu'il arrive au moment où il devrait raconter sa vie, ne trouve plus rien à ajouter.
Bonjour Cécile Gilbert.
Bonjour.
Ça, c'était un extrait d'un texte d'Italo Calvino, lu par Marcel Cuvelier, qui pointait évidemment la délicieuse absurdité de cette sorte d'autobiographie de Laurence Sterne, qui est Tristram Shandy, et qui s'étend largement sur l'histoire qui a précédé sa naissance du personnage de Tristram Shandy. Mais c'est évidemment tout ce qui fait l'intérêt de ce livre, c'est qu'il est absolument baroque. Qu'est-ce qui vous a intéressé, vous, au point que vous avez voulu consacrer un livre qui est à la fois un essai, mais en même temps aussi une divagation et une biographie que vous avez consacré donc à Laurence Sterne?
Ben, en fait, comme tout lecteur enthousiaste de Tristram Shandy, que j'ai découvert assez tard, je dois dire, parce que c'est pas le genre d'auteur qu'on nous apprend au lycée ou qu'on nous fait lire durant nos études. C'est un jour une libraire qui m'a dit « Mais enfin, Cécile, vous êtes écrivain et vous ne connaissez pas les vies et opinions de Tristram Shandy ?» J'ai dit non. Elle m'a dit « Vous avez de la chance. » Je l'ai acheté, je l'ai lu dans l'ancienne traduction, qui n'était pas encore celle de Guy Jouvet. Et ça m'a tellement plu, étonné, enthousiasmé, que j'ai commencé à me documenter sur Laurence Sterne. Et je me suis aperçu qu'il n'existait rien en français sur Laurence Sterne. C'était un écrivain qui avait fasciné sa génération, enfin les gens de son vivant, qui avait eu un succès énorme, qui avait révolutionné l'art du roman européen et anglais en particulier, qu'il avait influencé énormément d'auteurs, que les plus grands auteurs que j'admirais étaient tous payés leur tribut ou leur révérence devant Laurence Sterne, les romantiques allemands, Goethe, Nietzsche. D'ailleurs, j'en profite pour dire que L'écrivain le plus libre est un titre emprunté à Nietzsche, puisque Nietzsche a écrit un fragment dans Humain trop humain consacré à Stern, qu'il appelle à la suite de Goethe l'écrivain le plus libre de tous les temps.
Oui, mais vous aviez pensé à tout un tas
oui,
de titres d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Mais bon, ouais. J'ai trouvé que c'était magnifique. On aurait pu l'appeler l'écrivain absolu, mais je pense que l'écrivain le plus libre rend bien compte de ce qu'a été Stern.
Et... Vie et opinion de Laurent Stern. Voilà. C'était le titre que vous vouliez donner à un moment donné. Je... Vous avez trouvé ça trop codé.
Oui,
c'est ça
absolument. Donc, quid de cet auteur voilà, qui a été admiré par tant de génies du 19e siècle, du 20e siècle, de modernistes, de postmodernistes, etc. Il n'existait pas la moindre biographie, pas le moindre essai. Il existait une thèse voilà, publiée dans les années 60 chez Gallimard qui était quasi épuisée. Et je me suis dit, bah, pour en savoir plus sur Laurent Stern, il faut que je m'attelle moi-même à la tâche. Et donc, je suis partie en Angleterre. Sur les traces de Stern. Là, j'ai eu la chance d'arriver à York, qui était l'endroit où il avait toujours vécu, ou tout autour, en disant qu'il a vécu dans des différents petits villages autour de York, et qui est une ville de libraires et de bibliophiles, etc. Et donc, là-bas, en Angleterre, j'ai trouvé beaucoup de documents, des lettres non traduites, des biographies, etc. Et donc, j'ai fait tout un travail de recherche et d'études et je me suis, de toute façon, j'avais une interprétation de Tristram Shandy que je trouvais pas non plus nulle part. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre, parce que j'avais quelque chose à dire sur Tristram Shandy.
Qu'est-ce que vous aviez à dire sur Tristram Shandy?
J'avais à dire, si vous voulez. D'ailleurs, je suis un peu étonné des propos de Calvino que je connais, mais si vous voulez, pour moi, Tristram Shandy n'est pas une autobiographie.
C'est une autofiction pour vous?
C'est un roman. Parodique, enfin, disons que c'est pour moi un sous les dehors d'un roman familial un peu foutraque, très excentrique en effet, et pour lequel Stern s'est inspiré de membres de sa famille pour reconstituer voilà cette espèce de famille des Shandy qui veut dire en anglais tête fêlée, hein, timbrée. Shandy, ça veut dire tête fêlée, timbrée. En fait, il va écrire un des plus formidables anti-romans familiaux qui soit. En fait, il va mettre à bas toutes les notions justement du familial, de la communauté, de l'origine. Il va se moquer des thèses de son père sur l'hérédité. Enfin, tout ce qui est causal, et il va s'engendrer lui-même comme un personnage de fiction. Donc, oui, il y a des éléments autobiographiques qui ont servi à Stern, mais là où le livre est absolument fabuleux, c'est que Stern s'engendre lui-même à partir d'un personnage fictif qui est le personnage de Yorick dans Hamlet. Il va s'engendrer lui-même comme un personnage. Mais bon, on rentrera peut-être dans le détail plus tard de la complexité en fait du processus par lequel Stern s'est engendré comme créature symbolique, comme s'il s'était mis au monde en écrivant ça d'une autre façon en fait.
Alors tout à l'heure, vous avez cité Nietzsche. C'était un grand lecteur de Tristram Shandy, enfin, de vie et opinion de Tristram Shandy, virgule gentleman, car c'est ça le titre en réalité de ce livre. Et alors, il a rejeté la musique et la mélodie de son ami Wagner à cause de ce livre-là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça, Cécile Guilbert?
Oui, alors ça, c'est un lièvre que j'ai levé en écrivant mon livre. D'ailleurs, j'ai fait tout un chapitre à la fin là-dessus sur le cas Stern. Comme il y a un cas Wagner, il y aura un cas Stern. Parce qu'en fait, en me replongeant dans Nietzsche, je me suis aperçu que les qualificatifs qu'il donnait de l'art de Stern, un art assez ondoyant, plein d'équivoques, où quand il n'y a pas cette clarté, si vous voulez, d'une prose comme ça, sertorique, mais il y a plutôt quelque chose qui donne l'impression de planer, de nager, on ne sait pas si on touche le sol, etc. Toutes ces métaphores qu'a rameuté Nietzsche sur l'art de Stern, en fait, je me suis aperçu qu'il les avait utilisées pour Wagner. Et en fait, bon, en faisant comme ça un petit travail de glose sur un certain nombre de passages de Nietzsche, je me suis rendu compte que aussi dans la chronologie, il y avait quelque chose qui était troublant, que Nietzsche s'était aussi identifié à Yorick, et que à la fin de sa vie, il avait aussi écrit des poèmes. Si vous voulez, Yorick, bon, je pense qu'il faut revenir.
Oui, il faut peut-être redire aussi.
Voilà, il faut revenir à Yorick parce que ça, c'est l'affaire quand même centrale de Stern. Bon, Yorick, on le sait, c'est un bouffon, le bouffon du roi dans Hamlet. Et en fait, c'est le squelette qui est déterré à l'acte 5 d'Hamlet quand on va enterrer cette pauvre Ophélie et que là, le prince Hamlet arrive devant des fossoyeurs qui sont en train de plaisanter tout en faisant leur besogne et qui sont en train de creuser la tombe pour Ophélie. Et en fait, il trouve des ossements. Et il trouve notamment le crâne de Yorick qui était le bouffon et ça provoque de la part du prince Hamlet une sorte comme ça de mélancolie car il a très bien connu enfant Yorick, il a sauté sur ses genoux, Yorick le faisait rire, etc. Ce bouffon de Yorick, en fait, Stern va s'y identifier de plusieurs façons. C'est-à-dire que la première fois qu'il va écrire son premier grand livre, qui est « Vie et opinion » de Tristram Shandy, il y a certes le narrateur, Tristram, dont on a dit qu'il n'était pas encore né au début du livre. Okay.
Qui naîtra d'ailleurs au, voilà. Au volume
des,
4, c'est
voilà,
ça
c'est
au
une des facéties du livre qui en comporte beaucoup. C'est un livre plein de fantaisie et de drôlerie. Donc il y a ce narrateur dont on peut effectivement comprendre l'identification à l'auteur. Mais en même temps, Stern aussi se désigne comme l'auteur dans Tristram Shandy. Donc déjà, il y a une sorte de dissociation entre l'auteur et le narrateur Tristram. Mais il y a un autre personnage qui gravite autour de la famille Shandy, qui est le pasteur Yorick. Et le pasteur Yorick, en fait, là, c'est aussi un double de Stern. Car il était lui-même pasteur, et c'est là toute l'amusant de sa biographie. Si vous voulez, c'est un type qui a vécu pendant 45 ans dans l'obscurité totale de petites cures de province où il était un petit pasteur de rien du tout, mêlé à des intrigues picrocollines, des querelles de cloche-merle, qui un jour va écrire Tristram Shandy et devenir du jour au lendemain une star européenne. Donc c'est vraiment une destinée tout à fait singulière. Mais en attendant, il est un petit pasteur de campagne qui se met en scène sous les traits de Yorick. Et là où la manœuvre devient amusante, si vous voulez, c'est qu'à l'intérieur de Tristram Shandy, il insère un sermon qu'il a prononcé lui-même en tant que Laurence Stern à la cathédrale.
On est sûr qu'il a prononcé ce sermon lui-même.
Oui, il a prononcé ce sermon lui-même. Et si vous voulez, quand il prépare le coup de Vie et opinion de Tristram Shandy, que le livre va sortir, il a déjà marketé, entre guillemets, comme on ferait du marketing, si vous voulez, les sermons, sous la signature de Yorick, ce qui va créer un scandale hallucinant parce que on supporte pas, si vous voulez, autant Yorick peut bien être un personnage bouffon, le nom d'un pasteur dans un roman, si vous voulez, mais Yorick le bouffon soit l'auteur dans la vie réelle, si vous voulez, de sermons religieux, ça va créer un scandale. Mais toute sa vie, Stern va être appelé Yorick par tout le monde. Et au même titre, si vous voulez, que Laurence Stern est beaucoup moins connu que Tristram Shandy ou que Laurence Stern était beaucoup moins connu que Yorick, cette espèce de personnalité européenne voilà, qui voyageait beaucoup. Si vous voulez, il va y avoir effectivement cette Yorick, j'ajoute que Yorick va être le nom du narrateur du deuxième roman de Stern, qui est Voyage sentimental.
La compagnie des auteurs sur France Culture. Nous parlons avec vous, Cécile Guilbert, de Laurence Stern. On va parler de la vie de Stern. On va commencer, comme vous le faites d'ailleurs dans votre livre, par parler de sa mort. Parce qu'il est mort à l'âge de 54 ans à Londres, dans une petite chambre, au 44 Old Bond Street. C'était le vendredi 18 mars 1768. Vous précisez même que c'était à 4h de l'après-midi. Il n'était pas seul, il y avait un certain MacDonald qui était avec lui. C'était le valet d'un de ses amis. Et il paraît qu'il s'est vu mourir puisqu'il s'est écrié « Cette fois, ça y est ». Donc ça, c'est la mort de Stern. Mais l'histoire de sa mort continue après sa mort, si j'ose dire, et vous-même, vous êtes allé sur sa tombe, une tombe qui a été déplacée plusieurs fois. Alors racontez-nous un petit peu, Cécile Guilbert, l'histoire de la mort et de ce qui se passe après la mort de Laurence Stern.
Oui, alors c'est très étrange parce que Laurence Stern avait prophétisé, ou en tout cas émis le désir dans, justement, je crois, Tristram Shandy, ou peut-être Le Voyage sentimental, là j'avoue que je m'en souviens plus, de ne pas mourir chez lui parce que ça aurait attendri tous ses amis, etc. Il aurait voulu mourir dans une petite auberge. En fait, c'est à peu près ce qui se passe. Il est dans une petite chambre, seul. Il a juste un valet qui le sert.
Comme ça, c'est bien, personne ne l'ennuie. Voilà. D'une certaine manière, on ne vient pas lui demander comment il va. Non, là, dans une auberge, c'est le rêve, parce qu'on peut donner ses ordres au personnel et tout se passe très bien, aucune larme n'est versée.
Absolument. Donc voilà, il est seul. Ni sa femme, ni sa fille ne sont là. Ses amis ne sont pas très loin dans une rue adjacente et vont régulièrement demander de ses nouvelles. Et ils envoient effectivement quelqu'un et quand cette personne arrive, effectivement, Stern est en train d'expirer. Et alors là, à partir de là, se passent des choses très étranges, car bon, il est d'abord enterré dans un endroit qu'on tient un peu secret. Visiblement, les obsèques se déroulent avec très peu de monde.
Alors ça, c'est étonnant. Pourquoi ? Parce que c'est déjà une grande star, vous allez nous raconter.
On ne sait pas, si vous voulez. Là, il y a une sorte de mystère, parce que personne de sa famille n'est là pour suivre le cortège. On l'enterre plus ou moins en catimini. Alors, l'hypothèse a été apportée que... il y avait beaucoup de vols de cadavres à cette époque, etc., qu'on les disséquait dans les facs de médecine et qu'il y avait toute une vogue comme ça. Donc on l'enterre de façon clandestine.
Et puis après, ce qui n'empêchera pas qu'il soit après anatomisé, c'est ça ?
Oui, alors après, il se passe quelques temps plus tard, il se passe que son cadavre aurait été déterré. Je suis sûr que les tribulations de Caleb de Stern sont assez complexes. Mais bon, disons pour aller vite et pas trop rentrer dans tous les détails. Un étudiant en médecine aurait reconnu Stern, ce serait évanoui d'horreur, le cadavre aurait été à la fois réenterré une autre fois, puis des amoureux de Stern, après sa mort, se seraient émus qu'il n'y ait pas de stèle, donc certains auraient déposé des stèles tombales, gravant des poèmes à sa gloire, etc. Puis après, le terrain serait resté comme ça en l'état, on ne sait pas trop comment, pendant jusqu'à la Première Guerre mondiale. Puis après la Deuxième Guerre mondiale, il aurait été question qu'un promoteur immobilier achète ce terrain. Et ressurgit à ce moment-là l'histoire selon laquelle il y a le cadavre de Stern. Donc,
retrouve son crâne quand même à ce moment-là, alors là, dans les années 1960.
Un homme très important pour les études sterniennes qui s'appelle Kenneth Monkman, qui est un journaliste à la BBC, en fait s'est passionné pour Stern, a rénové le cottage de Stern qui se trouvait complètement détruit et complètement laissé à l'abandon près de York.
Et qu'on peut visiter aujourd'hui.
Voilà, qu'on peut visiter aujourd'hui, a réuni des fonds, si vous voulez, pour racheter ce cottage et il s'y est installé avec sa femme. Et ce Kenneth Monkman donc prend les choses en main au moment où le terrain va être vendu et assiste à l'exhumation de ce qui doit être la tombe de Stern. Et là, on retrouve 5 crânes, pas un, 5, ainsi qu'un bout de fémur. On identifie plus ou moins le fémur, on dit que c'est celui de Stern, parce que Stern était très très grand pour son époque, hein. Il était très très grand, très grand, très maigre. Et puis on fait des reconstitutions faciales, pas par ordinateur, mais avec des techniques de l'époque, etc. Et on décide qu'un des 5 crânes correspond tout à fait au moulage d'un buste qui a été fait grandeur nature de Stern à Rome.
Il y a un portrait aussi très connu par Reynolds.
Voilà,
de
il y a
Stern.
Aussi un portrait très connu de Reynolds. Bon bref, on identifie ce... Et on décide effectivement de réenterrer Stern dans le cimetière de Coxwold, qui est ce petit village où il a son cottage et où il a vécu presque toute sa vie. Et après, on mettra des stèles, après, on refera des pierres tombales et tout. Mais moi, ce qui m'avait toujours amusé, c'est que j'avais vu des photos où effectivement, on voit Kenneth Monkman au bord de la tombe avec un fossoyeur, exactement comme dans le cas de Hamlet, en fait. Et donc, il y a tout autour de ce jeu sur le crâne, le cadavre et la mort, il y a quelque chose, effectivement, qui rappelle beaucoup l'histoire de Yorick. Donc,
et d'ailleurs, dans votre livre, vous reproduisez rien moins que le crâne,
oui.
Quand même, de Stern. Incroyable.
Oui, j'ai trouvé ça très amusant de reproduire la photo du crâne, plus la photo des fossoyeurs. Et d'ailleurs, Kenneth Monkman, qui est mort depuis lui aussi, est enterré juste à côté de Stern et il a cette plaque tombale, cette plaque tombale magnifique, qui dit Kenneth Monkman avec ses dates et juste Chandéan, c'est-à-dire Chandéen, oui. Disciple de
c'est ce que vous chandéisme. Êtes, une Chandéenne.
Absolument.
Alors, on n'a pas écouté encore la prose de Laurent Stern. Je vous propose d'écouter à présent un extrait de Tristram Shandy, lu ici par Pascal Mazzotti.
J'ai été engendré dans la nuit comprise entre le premier dimanche et le premier lundi du mois de mars de l'an de grâce 1718. Je suis formel sur ce point. Mais comment puis-je fournir de telles précisions sur des faits qui se sont passés avant ma naissance ? Cela résulte d'une petite anecdote, connue seulement du cercle de famille, et que je rends aujourd'hui publique pour l'éclaircissement de ce que j'avance. Je dois vous apprendre que mon père, qui commerçait jadis en Turquie, s'était à cette époque retiré depuis quelques années des affaires pour vivre et pour mourir dans la propriété paternelle. Il fut, je crois, l'homme le plus réglé du monde en tout ce qu'il faisait, affaires ou divertissement. Pour donner un exemple de l'extrême exactitude dont il fut, à vrai dire, l'esclave, il s'était pendant de nombreuses années fixé comme une règle immuable de remonter de ses propres mains la grande pendule debout sur le palier de l'escalier de derrière le soir du premier dimanche de chaque mois, et cela toute l'année. Il ne manquait pas plus de le faire que le dimanche d'arrivée, Et comme, à l'époque dont je parle, il avait entre 50 et 60 ans, il avait été peu à peu conduit à concentrer à la même date divers autres devoirs familiaux, afin, confiait-il souvent à mon oncle Toby, afin de se débarrasser de tous en une seule fois et d'éviter tout le reste du mois leur hantise importune. Un seul accident rompit cette ordonnance. J'en fus pour une grande part la victime et crains d'en ressentir les effets jusqu'au tombeau. Par une de ces malencontreuses associations d'idées sans fondement naturel, ma mère, à la longue, ne put plus entendre remonter la dite pendule sans voir soudain surgir certaines autres pensées et vice-versa.
La compagnie des auteurs et cet épisode célèbre du début de Tristram Shandy, Cécile Gilbert, où il est donc question pour Tristram de son engendrement, hein, directement lié à l'habitude qu'avait son père, eh bien, de remonter une pendule tous les dimanches. Parlons donc un petit peu plus précisément de la biographie de Laurent Stern. Vous avez commencé déjà d'évoquer les deux parties de sa vie qui semblent comme deux existences totalement opposées et séparées par la publication de ce livre Tristram Shandy. Donc la première vie, c'est quoi? C'est une vie un peu morne, obscure, une vie torve. Comment la qualifieriez-vous?
C'est une vie, oui, c'est une vie obscure, assez malheureuse, hein, au début de la vie de Stern, parce qu'en fait, il naît, il va être orphelin très très jeune. En fait, son père est vraiment ce qu'on appellera un loser, quoi. Son père est un petit militaire.
C'est un loser sublime, non?
Enfin, un loser sublime, voilà, qui lui va inspirer le personnage magnifique de Toby Shandy dans son roman, c'est-à-dire l'oncle. C'est-à-dire quelqu'un qui était un militaire, mais qui était d'une douceur, d'une tendresse, d'une gentillesse incroyable, qui était naïf, candide. Et ce militaire petitement gradé, en fait, va être démobilisé au moment de la paix d'Utrecht, au moment de la naissance de Laurent Stern, en novembre 1713. Et puis Stern va avoir une enfance comme ça, où il va être ballotté de garnison en garnison, avec son père Roger Stern. Son père avait épousé une femme qui était elle-même aussi d'une famille assez pauvre, hein, qui était déjà veuve quand il l'a épousée. Et bon, à 18 ans, Stern se retrouve orphelin de son père. Son père perd la vie bêtement à la Jamaïque d'une blessure reçue dans un duel à propos d'une noix.
Ça donne déjà le... Ça lui correspond bien.
Ça donne déjà le contexte, oui, tout à fait rural et provincial de cette famille. Et donc Stern va être en fait élevé et aidé par deux oncles, deux frères de son père, un qui est assez gentil mais qui s'occupe pas malheureusement assez longtemps de lui, qui est Richard, et l'autre qui s'appelle Jacques, qui est déjà un ecclésiastique. Bon, néanmoins, Stern fait de bonnes études.
Et qui, lui, n'est pas très gentil, le
Jacques. Non, alors lui va être atroce, si vous voulez, et en fait, Stern va devoir batailler 20 ans pour effectivement s'émanciper. Mais enfin, bon, ce qu'on peut dire, c'est que Stern fait de bonnes études au Jesus College de Cambridge, qu'il aime déjà beaucoup lire, qu'il a beaucoup de dada, et ça c'est très important dans la vie, parce qu'il fera toute une théorie sur les êtres humains, à savoir que ce qui compte dans la psychologie d'un être humain, c'est ses dada, ses califourchons, c'est ce que Guy Jouvet a traduit par ses califourchons, en fait, hein, mais qui avait toujours été traduit par ses dada, parce qu'en fait c'est la part la plus tendre d'un homme, c'est là vraiment on peut comprendre vraiment ce qu'il est. Et lui, il a plusieurs dada, il adore les livres, il adore lire, il adore jouer de la musique, il adore dessiner, il est assez doué. Donc là, il appartient bien, voilà, à cette sensibilité de son siècle. Et puis à l'université, il rencontre un excentrique anglais, un autre qui est encore plus excentrique que lui à cette époque-là, qui s'appelle John Hall Stevenson, avec qui il va passer beaucoup de temps et rencontrer beaucoup d'autres excentriques. Et ils vont pratiquer ces espèces comme ça de souper masculin où on échange des bons mots, où on échange des... C'est très, si vous voulez, c'est très dans cette tradition en fait de l'érudition pleine d'esprit, voilà, qu'ont incarné un Montaigne, un Rabelais, un Burton, un Cervantes.
Et qui sont précisément les auteurs dont, voilà, ils discutent sans cesse entre eux.
Voilà, et surtout aussi, il y a l'influence de Swift, qui est quand même l'aîné, et qui, lui aussi, avec le Scriblerus Club, en fait, avait toute une société d'hommes autour de lui, avec qui, voilà, on raillait le pédantisme, où on pensait que le rire était une force de libération, mais il fallait aussi avoir du savoir et des lettres. Bon, donc tous ces gens parlent latin, grec, Et donc, bon, Stern, finalement, n'a pas d'argent, il est très pauvre, il a fait des bonnes études, il est assez cultivé, et donc il finit par devenir ecclésiastique, en fait, comme beaucoup de ses oncles et beaucoup des hommes de ses ancêtres, en fait, hein, dans sa famille. Et il devient petit ecclésiastique, mais sous la férule d'un oncle, son oncle Jacques, qui est absolument cupide, assez méchant, qui va l'instrumentaliser beaucoup, puisque Stern va lui servir de nègre. Parce qu'il y a toutes sortes de querelles. Bon, c'est difficile de rentrer dans le système politique anglais de l'époque, mais si vous voulez, il y a les élections locales, et puis il y a l'influence du clergé, et puis tout ça, tous ces gens se bataillent pour avoir des prébendes, etc. Donc il y a sans arrêt des luttes.
C'est un peu l'atmosphère, vraisemblablement, du roman politique.
Tout à fait.
La première nouvelle, enfin une grosse nouvelle, de Laurent Stern.
Tout à fait, vous faites bien de rappeler ça, puisque en fait on dit toujours que Stern est rentré en littérature avec Vie et opinion de Tristram Shandy, mais d'une part il avait quand même pris conscience de son talent de plume à travers ses besognes d'écotier politique pendant 20 ans, et surtout, pour s'émanciper une bonne fois de cet oncle Jacques si affreux, et aussi pour exister, il avait décidé de ridiculiser un notable local en écrivant un pamphlet anonymement, qui s'appelait A Political Romance. Et là, il avait pris tout à fait l'exemple de Swift, parce que Swift avait conseillé à un jeune homme qui voulait se lancer dans les lettres, si vous voulez, qu'il fallait arriver le fouet à la main, et qu'en fait, il n'y avait rien de mieux pour commencer une carrière littéraire que le pamphlet, la vindicte, etc., et balancer comme ça des coups à droite à gauche. Et Stern, influencé par le conte du tonneau de Swift et par aussi une sorte de livre de Boileau, écrit un pamphlet. Et il fait tellement mouche, en fait, que ce pamphlet est lu partout. Et le notable ridiculisé est piqué, parce que c'est une sorte de pamphlet à clé. On reconnaît les personnages quand on est dans les intrigues locales, si vous voulez. Mais ce pamphlet ne sera jamais diffusé et il sera brûlé avant même sa diffusion. Mmh. Mais en tout cas, Stern a réussi son coup.
C'est violent, du coup, voilà. Réponse à ce pamphlet qui est quand même avant tout quelque chose de très très drôle.
Très drôle, mais si vous voulez, le fait qu'il ait été brûlé et pas diffusé, c'est pas très gênant, parce qu'en fait, là, Stern a compris qu'il pouvait, avec sa plume, avoir une vraie arme et faire quelque chose, aller plus loin, faire mieux, et c'est pour ça qu'après, il va se lancer dans l'écriture de Tristram Shandy. Mmh.
La vie de famille de Laurent Stern, alors on n'a pas parlé de sa mère, mais ils avaient des rapports qui n'étaient pas très bons, et avec sa femme, ils auront des rapports qui ne seront pas forcément très bons. La mère, peut-être, d'abord, pour commencer.
Oui, alors sa mère, en fait, il va avoir de très mauvais rapports avec sa mère, et un certain nombre d'incidents vont accréditer effectivement la légende d'un Stern. Stern, il a deux casseroles qui lui derrière lui, si vous voulez, c'est la réputation d'être un mauvais fils et la réputation d'être un mauvais mari. Alors pourquoi mauvais fils? Parce que en fait, sa mère, elle est un peu comme son oncle, si vous voulez. Elle est cupide, avare, elle ne pense qu'à vivre qu'à ses crochets. Dès qu'il se marie, en fait, il se marie en 1741 avec une certaine Elisabeth Lumley.
C'est un mariage d'amour quand même pour.
C'est un mariage d'amour. Il épouse une femme qui est à la fois intelligente et éduquée. Il fait un mariage d'amour. À l'époque, c'est pas si fréquent. Mais bon, il va pas s'entendre avec elle très longtemps. Sa mère, en fait, va essayer effectivement de vivre à ses crochets, de sans arrêt lui tirer de l'argent alors qu'il tire déjà le diable par la queue. Et puis elle ira un peu trop loin un jour, elle lui dira qu'en fait elle préférait qu'il meure puisqu'il est d'une santé si fragile, parce qu'il est d'une santé fragile en fait, hein, il est pulmonaire, toute sa vie il va souffrir des poumons, et c'est une sorte de corps à la fois vif, nerveux et en même temps toujours malade et un peu égrottant comme celui de Voltaire. Et bref, il va rompre avec sa mère, et donc quand sa mère va mourir juste à la veille de son succès avec Tristram Shandy, il y aura cette légende du mauvais fils. Bon. Quant à sa femme, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire qu'au début tout va bien, et puis très vite ils ne s'entendent plus, elle aussi se montre acariâtre, un peu une mégère, l'ennui et tout, et puis de toute façon, comme il va avoir du succès avec son livre et qu'il va être obligé de voyager beaucoup, d'aller constamment à Londres et tout, bon, finalement il va se livrer à son libertinage. Favori, et il va rencontrer même déjà une cantatrice juste au moment de Tristram Shandy, avec qui il va avoir une aventure, ça va se savoir, bon, ça va envenimer leur rapport, mais bon, ce qu'on peut dire aussi, c'est que toute sa vie, il s'occupera quand même bien de sa femme et de sa fille, qu'il fera toujours tout pour essayer de subvenir à leurs besoins, qu'elle ne manque de rien, mais effectivement, il y a une sorte de divorce entre conjugalité et écriture dans la vie de Stern.
Donc pour résumer finalement les 40 premières années, parce que c'est quand même long, hein, il y a 40 années,
45 ans, ouais.
45 ans même, un peu grise comme ça, et après seulement 10 années dans la lumière, dans la gloire. Pour résumer cette première partie de vie, Cécile Gilbert. Est-ce que justement la couleur grise est la couleur qui convient ou est-ce qu'il faut quand même nuancer un peu ça?
Moi, je dirais que la couleur grise, disons que c'est le point de vue, c'est quand on adopte le point de vue social. Oui, on voit que c'est gris parce qu'effectivement, pas beaucoup d'éclat, des querelles médiocres, de provinciales, de campagne, bon, une vie sans beaucoup. Mais pas gris du tout dans la mesure où cet homme qui s'appelle Laurent Stern fait preuve d'une alacrité, d'une gaieté, d'une gentillesse constante, si vous voulez, et qu'avec ses armes et cette énergie vitale et ses dons qui sont extraordinaires, il va quand même réussir à écrire ce livre qui va changer son destin.
Allez, on va continuer de parler ensemble de Laurence Stern, Cécile Gilbert, mais tout de suite, c'est En compagnie des revues.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Je vous présente Cécile Gilbert, Éric Dussert du Matricule des Anges en face de vous. Bonjour Éric.
Bonjour.
Le numéro de fin d'automne du Matricule des Anges a pris un goût d'étranger. Il arbore en couverture les noms de Vladimir Nabokov, de Giosuè Calacciura ou de Guillaumard de Gramont. Du Brésil à la Pologne, il semble donc que vous ayez un fort désir au Matricule des Anges, un fort désir d'aller rencontrer l'autre.
En effet, la littérature traduite est le sujet central du numéro de novembre et décembre 2017 en particulier, parce qu'on y fête un double 30e anniversaire, celui de la Maison des écrivains et des traducteurs de Saint-Nazaire, en même temps que celui du Collège international des traducteurs littéraires d'Arles, fondé lui aussi en 87. On doit à l'activité de ces deux institutions très très actives la parution chaque année de nombreux ouvrages en langues variées, brésiliennes, vous l'avez dit Mathieu, mais aussi égyptiennes, chinoises, géorgiennes, coréennes, etc., etc. C'est un délice pour qui a la curiosité du monde et le goût de l'autre. Oui. Et les lecteurs français sont particulièrement chanceux de ce point de vue. Les jeunes traducteurs aussi, qui disposent de plusieurs écoles grâce à ces deux institutions, la Fabrique des traducteurs ou l'École de traduction littéraire. Alors dans ce numéro cosmopolite du Matricule, Patrick Deville, Roberto Ferrucci et quelques autres nous entretiennent de leur travail et du rôle de la Maison des écrivains et des traducteurs. Et Michel Volkovitch, donc, qui est passeur de littérature grecque qu'on connaît très bien maintenant et éditeur à l'enseigne du Miel des Anges, Michel Volkovitch, il apporte cette définition du praticien averti de la traduction. C'est un interprète, dit-il, il donne sa version personnelle d'un morceau donné, avec des accords et des instruments différents. Et aussi, comment faire autrement, plus ou moins de fausses notes.
Alors des fausses notes, justement, le Khmer Sotpoline en est le spécialiste, en tout cas si on en croit son roman L'Anarchiste, publié à la Table Ronde sur les conseils de Patrick Deville.
Oui, Sotpoline est un cas. C'est un écrivain aussi dérangeant que solitaire, une sorte de rétif intégral. Journaliste khmer, donc, exilé en France d'abord, puis aux États-Unis dans les années 70, il a décrit dans L'Anarchiste son parcours heurté. Violence politique, sexe à outrance, fantasmes douteux, dérèglements variés, tout cela se mêle à une volonté de vivre, qui reste fascinante. Christophe Maquet, qui est poète lui-même, vient de traduire son nouveau livre pour les éditions Le Grand Os. Ce livre s'appelle « Génial et génital » et se compose de 4 nouvelles tout aussi provocantes que d'habitude. Je voudrais citer ces quelques mots. « Et moi, tenez, moi qui vous parle, regardez le tableau. Fringant jeune homme hier. Aujourd'hui, 6 gosses sur les bras. C'est effroyable. En un clin d'œil, je me suis retrouvé avec une ribambelle de gamin. Génial. Vous ne trouvez pas ? Génial et génital. »
Pour finir, le Matricule des Anges présente une maison d'édition dans chacune de ses livraisons. Et cette fois-ci, Éric, c'est le tour d'une toute jeune maison. Elle est spécialisée dans la traduction. Elle s'appelle Belleville Édition.
Oui, les éditions Belleville ont été lancées il y a à peine 2 ans par un duo de jeunes femmes, Dorothy Aubert et Marie Trébaol, qui ont eu toutes les deux une intuition formidable. Au lieu d'attendre que les agents et les traducteurs leur proposent des textes étrangers, elles sont allées les chercher chez leurs auteurs directement. Leur technique est très simple. Au cours de leur déplacement dans le monde arabe, en Turquie ou au Brésil, encore le Brésil, elles interrogent les contemporains et les libraires sur place. Elles ont ramené Sainte Caboche de Socorro Accioli, traduite par Régis de Samorera, un roman qui a connu l'an dernier un succès mémorable et mérité, et rebelote aujourd'hui avec l'Égyptien Hamdi Al-Ghazar, dont le roman Aux femmes est une délicieuse ode sensuelle qui se déroule au Caire. Elle est traduite par Françoise Néraud. Elle est en passe de rééditer l'exploit. Chapeau.
Mais chapeau aussi aux Matricules des Anges, Éric Dussert, qui nous informe sur les livres et sur les jeunes maisons d'édition. On peut se procurer le Matricule des Anges en s'abonnant ou alors en kiosque, c'est ça ?
De partout.
De partout, c'est très facile. À bientôt, Éric, merci.
Au revoir.
C'est la suite de la Compagnie des auteurs. Cécile Gilbert, biographe de Laurent Stern, nous parle de l'auteur de Tristram Shandy, dont voici un extrait pour repartir dans cette seconde partie, un extrait où il est question de nœuds bien trop serrés et que le docteur Slope, au moment où il accouche la mère de Tristram, s'évertue à couper.
Il appliqua donc ses dents à ce travail. C'étaient là ses instruments de prédilection. Il en faisait le plus grand cas. Mais malheureusement, il s'en servit si mal en cette occasion. Il trouva une telle résistance dans les nœuds qu'il n'en avait pas encore défait trois, qu'elles étaient toutes ébranlées.
Diable !
Alors il essaya de faire faire cet ouvrage à ses doigts et à ses pouces. Mais ses ongles en souffrirent encore bien plus vivement.
Que la peste le crève, je n'en viendrai pas à bout !
Cependant, le bruit redoublait autour du lit de ma mère.
Je voudrais qu'il fût à tous les diables! Je ne défrais jamais ses nœuds!
Ma mère jeta un cri perçant qui se fit entendre dans toute la maison.
Charlie, prêtez-moi votre couteau, il faut bien enfin couper ses nœuds, morbleu, sangbleu!
Mais qu'avez-vous donc?
Ce que j'ai, ne le voyez-vous pas? Mais c'est à moi qu'il faut que cela arrive, à moi qui suis le seul accoucheur de tout le canton. Je me suis coupé le pouce jusqu'à l'os, hein, me voilà bien à présent. Cet accident va me ruiner, je suis perdu. Je voudrais que le diable l'eût emporté avec ses nœuds, l'animal!
Mon père avait beaucoup d'amitié pour Obadiah et ne pouvait pas supporter aisément que le docteur Slope le traitât si mal. Cependant, si cet accident du docteur Slope eût été tout autre chose qu'une simple coupure au pouce, mon père lui aurait passé son emportement. Sa prudence eût triomphé. Mais faire tant de bruit pour si peu. Mon père en fut choqué et se détermina à se venger.
Lecture donc par Pascal Mazzotti, Edmond Tamise et Jean-Jacques Aslagnan. Cette histoire de nœuds, elle vous amuse, Cécile Gilbert, comme vous amuse peut-être, j'imagine, l'ensemble du récit de Tristram Shandy.
Oui, elle est amusante, oui. Ce qui m'amuse surtout, en fait, c'est l'interpellation du lecteur constante dans le... Dans le livre Tristram Shandy.
C'est ce qui fait la modernité, enfin l'une des choses qui font la modernité de Laurent Stern.
Tout à fait, parce qu'il y a une sorte de prise de pouvoir comme ça par l'auteur, et sur le lecteur, sur le texte, sur la causalité du texte, sur la façon dont il doit se dérouler. Enfin, il y a une sorte de coq à l'âne et de tête à queue totale de la logique. Et en même temps, il y a une férule de fer, puisque si effectivement Tristram Shandy est cet anti-roman familial sous les dehors d'une... Voilà, de la peinture d'une joyeuse tribu d'excentriques. Il y a aussi des choses complètement audacieuses sur le plan formel. Il y a des dessins, il y a des personnages qui font des dessins, qui sont reproduits. Il y a une page marbrée, il y a une page noire. Enfin bon, et voilà, il y a beaucoup de choses qui sont du point de vue objet livre ou objet éditorial tout à fait réjouissantes.
Mais d'ailleurs, à ce sujet, vous avez dit tout à l'heure que Laurent Stern souhaitait être célèbre. Il est devenu célèbre. Et en même temps, quand il écrit... son livre, il ne cherche pas à se fondre dans une tradition qui aurait pu lui assurer justement un certain succès. Finalement, il ne recule devant rien, devant aucune extravagance moderne, alors que pourtant il aspire finalement à être connu et à ce que son livre fonctionne et qu'on parle beaucoup de lui. Comment vous expliquez ça ?
Ben, alors en fait, concernant Stern, il y a une équation qui est tout à fait unique dans l'histoire de la littérature en fait, parce que il fait un livre extrêmement novateur, qui est en rupture totale avec les canons du roman de l'époque. Et d'ailleurs, ce genre n'est pas complètement déjà codifié, puisqu'on est qu'au début de la première moitié du XVIIIe siècle. Si vous voulez, l'âge d'or du roman, c'est le XIXe siècle. Même s'il y a eu très bons romans au XVIIIe siècle. Et surtout en Angleterre, où on n'avait que Richardson, en fait. Sinon, les grands auteurs anglais de l'époque sont des gens comme Swift, sont des pamphlétaires. C'est aussi pour ça que c'est si peu traduit, d'ailleurs, en France, cette littérature anglaise de cette époque, parce que c'est pas du roman. Mmh. Donc, il fait une œuvre extrêmement novatrice sur le plan romanesque, qui va influencer beaucoup les modernes plus tard. Mais, bizarrement, alors que cette œuvre est en une telle rupture par ses fantaisies, ses excentricités, sa façon de raconter une histoire, qu'elle est comme un ovni, si vous voulez, littéraire, il rencontre un succès à la fois critique et à la fois du grand public. Et ça, c'est rarissime, parce que normalement, quand une œuvre est très novatrice, elle trouve pas d'écho chez ses contemporains, c'est la fameuse tradition romantique du génie méconnu, du génie qu'il va falloir attendre des siècles avant de reconnaître ce qu'il a apporté, etc. Lui, immédiatement, il a le succès critique, c'est-à-dire toutes les arbitres des élégances littéraires de son époque crient au génie et au chef-d'œuvre, et il fait un carton, si je peux dire, avec le public qui s'arrache son livre. En quelques jours, il n'y a plus de livres chez les libraires, si vous voulez, c'est un peu ça. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est quand vous dites qu'effectivement, il écrit pour être célèbre, ça c'est ce qu'il dit, et aussi pour gagner de l'argent, et aussi parce que il a envie de s'amuser, il fait preuve d'un cynisme et d'un sens stratégique tout à fait moderne aussi. Mmh. C'est-à-dire qu'il va faire tout...
Un sens du marketing.
Ah oui, un sens du marketing incroyable, parce qu'il va faire tout, en fait, pour que son livre marche. D'une part, il va... Alors, évidemment, on n'est pas à l'âge de la presse. Si, il y a de la presse, si vous voulez, mais c'est pas comme les médias d'aujourd'hui. Mais si vous voulez, pour qu'un livre fonctionne dans la société londonienne, et puis qu'après, ça fonctionne, si vous voulez... Parce que Londres, c'est l'Angleterre, en fait. C'est comme Paris, la France, quoi. C'est un peu une ville très peuplée. Bon, c'est l'orbite des élégances, Londres. Pour que la bonne société londonienne puisse après en parler, etc., qu'il y ait une sorte de bouche à oreille et de buzz, comme on dirait aujourd'hui, en fait, il fait écrire des lettres par ses maîtresses aux personnages influents de l'époque, qui sont les grands acteurs, qui sont certains aristocrates, etc.
Lui-même prend sa plume s'il
voilà,
faut
pour écrire aux influenceurs. Il dicte à sa maîtresse les lettres, il exagère effectivement le succès du livre pour faire buzzer, etc. Alors il fait ça d'une part, donc le livre commence à en parler, etc. Mais aussi, il fait une chose alors absolument incroyable, c'est qu'il va demander au plus grand artiste de son époque, qui est William Hogarth, qui est un dieu vivant, qui est vraiment qui est un artiste qui a un sens aussi qui est complètement en harmonie avec Stern, dans la mesure où c'est le graveur, le dessinateur, si vous voulez, de ce qu'on appelle le wit, mm-hmm. c'est-à-dire cet esprit satirique. C'est un dessinateur très littéraire d'une certaine façon. Il va demander donc à Hogarth, le plus grand artiste de son temps, de lui faire un frontispice pour les deuxièmes éditions des deux premiers volumes de Tristram Shandy, puisque le premier s'est vendu comme des petits pains, et donc on va tout de suite faire une deuxième édition. Il y a tellement de succès. Hogarth va lui accorder ce frontispice. Il va se faire portraiturer par le plus grand portraitiste de son époque, qui est Reynolds. Et c'est comme aujourd'hui, si vous voulez, si vous demandiez, vous êtes un auteur débutant, vous venez de votre province perdue, personne ne vous connaît, vous faites un premier roman, c'est comme si vous demandiez, je ne sais pas, il y a 30 ans à Richard Avedon de vous faire une photo, ou si vous voulez, à Annie Leibovitz aujourd'hui, c'est un peu ça. Si vous voulez, le plus grand portraitiste qui est Reynolds, il va poser pour lui et Reynolds va faire un portrait, ça va être un des meilleurs portraits de Reynolds et sans doute un des meilleurs portraits d'écrivain de toute l'histoire de la peinture, parce que très expressif, il va beaucoup poser, beaucoup plus que les autres modèles de Reynolds, va poser 8 fois en un mois pour Reynolds, donc il va avoir ce portrait qui va être aussi contribué à sa gloire, qui va être diffusé dans toute l'Europe, et il va faire une dédicace au Premier ministre en personne.
Alors voilà, ça signifie quelque chose, ça, cette dédicace au Premier ministre?
Ah ben oui, parce que c'est un mélange de flagornerie et en même temps de visée comme ça au sommet, et donc il dédicace pas son livre à un grand, si vous voulez, un grand critique, un grand homme de lettres, ou un grand aristocrate de l'époque, ami des arts et ou mécène, si vous voulez, dédicace directement au Premier ministre qui est William Pitt.
Alors il est très charmant aussi, et c'est peut-être pour ça qu'il réussit si bien, c'est parce que c'est une personnalité qu'on aime recevoir, c'est quelqu'un d'absolument...
Ah, c'est le Jean d'Ormesson de son époque,
c'est le Jean d'Ormesson de son époque, voilà. C'est pas le Johnny de son époque par contre.
Non. Quand je dis c'est le Jean d'Ormesson de son époque, c'est quelqu'un de voilà qui en fait, parce que Jean d'Ormesson incarnait une sorte de civilité qui n'existe plus guère, si vous voulez, mais c'est vraiment l'homme du XVIIIe siècle au sens de la conversation, de l'esprit, d'une forme de gaieté polie, d'une élégance morale qui fait que voilà, en société, on montre son meilleur aspect, on rit, on s'amuse finement, sans blesser personne. Donc, une conversation étincelante, beaucoup de gaieté, beaucoup de, et puis cette excentricité qui fascine. On se dit, mais quel est ce curé qui est si peu curé, qui est si libertin? Et donc, tous les salons londoniens vont s'arracher sa présence, les théâtres. Donc, il va mener du jour au lendemain, sa vie va devenir, c'est comme s'il avait franchi la mer Rouge, quoi. D'ailleurs, c'est la liberté, les femmes, l'éclat de la vie mondaine. Et avec aussi une technique, et je pense qu'il faut en parler de ça, si vous voulez, c'est que Tristram Shandy, il publie ses deux premiers volumes, mais en fait, il a promis la suite. C'est-à-dire que c'est comme, pour faire prendre un équivalent d'aujourd'hui, c'est comme Virginie Despentes avec Vernon Subutex, si vous voulez. Il y a un premier tome, et puis on attend le deuxième et le troisième, parce que, bon, aujourd'hui, on a les saisons des séries, mais à l'époque, si vous voulez, c'est le feuilleton, mais c'est mieux que le feuilleton, parce que il n'y a pas de continuité comme dans un feuilleton, comme les feuilletons du 19e siècle. On est au 18e siècle, et lui, il invente cette publication permanente, en fait. Tristram Shandy, ça va durer de 1761 à 1767.
Mais Virginie Despentes, elle a tout de suite signé Virginie Despentes, alors que Laurent Stern, au départ, il publie de façon anonyme Tristram Shandy, Cécile Gilbert.
Oui, alors il publie de façon anonyme, en fait, les deux premiers volumes, mais très vite. Quelques mois plus tard, parce qu'en fait, bon, là, il y a encore un phénomène éditorial un peu compliqué, c'est qu'en fait, il commence par écrire une première version du premier livre de Tristram Shandy, qui fait un peu circuler dans son bled, là, près d'York. Et puis, ses amis lui disent que c'est trop marqué par la politique locale, des allusions que personne va comprendre, il faudrait qu'il universalise un peu son affaire, qu'il supprime certaines choses. Alors, il réécrit, etc. Et il publie effectivement un premier volume anonymement. Et puis, comme ça marche tout de suite et qu'il y a par ailleurs des annonces qui ont été faites dans la presse pour ce livre, etc., en fait, tout de suite, il va y avoir une édition qui va signer lui. Et après, bon, il signera évidemment tous les autres livres. Mais ce que je veux dire, c'est que la publication va s'échelonner de 1761 à 1767. Et tout de suite, les six premiers volumes, il y en aura neuf de Tristram Shandy. Les six premiers volumes, en 1760-1761, il y en a six. Après, ça va être un peu plus...
Un peu plus sporadique. Mais oui, il va prendre son temps. De toute façon, il l'avait dit, hein, qu'il voulait prendre son temps et ne pas écrire trop vite si son libraire et ses lecteurs lui autorisaient. La compagnie des auteurs sur France Culture. Alors, on l'a dit, Cécile Gilbert, il est très lancé dans les salons londoniens, mais ça ne suffit pas tout à fait à Laurent Stern. Il décide de franchir la Manche et d'aller conquérir cette fois Paris. Il va faire des rencontres, encore une fois, très prestigieuses dans les salons parisiens, Cécile Gilbert.
Oui, alors il est obligé de quitter l'Angleterre, en fait, parce qu'il est extrêmement malade. Quand on dit qu'il a effectivement une vie déséquilibrée, qu'il lui reste presque 10 ans à vivre après la publication de Tristram Shandy, c'est parce qu'en fait, il est extrêmement malade et il va être sans arrêt obligé de se soigner, d'aller vers le sud, toujours plus vers le sud. C'est pour ça qu'il va partir vers le sud de la France,
sans
vers
beaucoup
le sud
de succès,
de l'Italie,
d'ailleurs.
Etc.
C'est comme Nietzsche, hein, finalement.
Exactement. Et donc, évidemment, sur cette lancée, il va s'arrêter à Paris une première fois. Il ira beaucoup, souvent à Paris, hein, au fur et à mesure de ses allées-venues entre l'Angleterre et le sud de la France et l'Italie.
C'était une ville peut-être parfaite pour lui, dans le sens où c'était la capitale intellectuelle et spirituelle du monde, en fait, à ce moment-là, en tous les cas.
Bah
et ça lui correspondait finalement très bien.
Oui, alors c'est évidemment la capitale des Lumières, et c'est aussi ce qu'on appelait Foutreland, c'est-à-dire
et ça lui correspondait très
une
bien.
Une ville galante, voilà, où il y a beaucoup de... Voilà, beaucoup de femmes, beaucoup de prostituées, etc. Donc, on est en pleine Europe des Lumières, et le cœur est Paris, et effectivement, il va rencontrer d'abord Diderot, qui est né la même année que lui, et qui va évidemment se prendre de passion pour Stern, et c'est intéressant de noter qu'ils vont sympathiser, mais donc Stern va faire envoyer à Diderot tout un certain nombre de livres, dont les premiers livres parus de Tristram Shandy, que Diderot va lire en anglais, et dont il va beaucoup, beaucoup s'inspirer pour écrire plus tard Jacques le Fataliste, puisque tous les procédés de digression, d'interpellation du lecteur, de dialogue, etc., qu'on trouve dans Jacques le Fataliste, sont directement pompés sur Tristram Shandy.
Alors, il n'a pas rencontré Voltaire, en revanche.
Non.
Il n'a pas rencontré Chamfort. Il a rencontré Crébillon fils.
Oui, il a rencontré Crébillon fils, il s'est fait tirer le portrait par portraiturer par Carmontel. Plus tard, il rencontrera Julie de Lespinas, Jean-Baptiste Suard, l'abbé Morellet, enfin bon, toute une série comme ça de personnalités des salons parisiens qui lui feront le meilleur accueil et il sera très heureux à Paris. Il rencontrera aussi certains de ses compatriotes comme le philosophe David Hume, enfin bon, des Anglais qui sont à Paris. Il sera toujours très heureux d'être à Paris. Et il y a d'ailleurs des échos de ses séjours parisiens dans les derniers livres de Tristram Shandy et surtout dans Voyage sentimental.
Et alors, évidemment, les 8 dernières années sont ses années de gloire, mais ce sont aussi, vous le disiez, Cécile Guilbert, les années de maladie, puisqu'il a donc la tuberculose. Et puis, des années un peu plus pathétiques aussi sur le plan amoureux. Voilà un homme qui commence à être un petit peu âgé et qui s'éprend de jeunes filles, notamment cette fameuse Elisa Draper, je ne sais pas si je le prononce à l'anglaise ou à la française, qu'il a rencontrée en janvier 1767, Cécile Guilbert.
Oui, voilà, alors qu'il est rentré, si vous voulez, tout seul de France parce qu'il était trop malade, qu'il a laissé sa sœur, sa fille et sa femme en France, qui elle aussi était souffrante, avait de l'asthme, parce qu'il faut voir le climat quand même dans le nord de l'Angleterre, et à cette époque, ça doit être très dur, surtout quand on est à la tuberculose. Là, alors qu'il devrait s'atteler, en fait, au projet de livre qu'il a, parce qu'en fait, il va lui rester même pas un an à vivre, il a quand même le projet d'écrire Voyage sentimental à travers la France et l'Italie. Et là, il rencontre dans un salon, effectivement, cette fameuse Elisa Draper, qui n'est pas une jeune fille, mais qui est plutôt, disons, une jeune femme, qui a 30 ans de moins que lui, qui est de passage, qui est la femme d'un officier anglais qui est installé en Inde, qui est là sans son mari. Et là, tout d'un coup, Stern va avoir une passion folle pour cette femme. Et c'est en général l'épisode biographique de la vie de Stern qui est le plus, disons, pathétique, puisque en fait, il va complètement un peu perdre les pédales pour cette femme, qui va À vrai dire, on n'est même pas sûr qu'il ait vraiment une liaison amoureuse avec elle. Disons qu'ils ont eu une sorte d'amitié platonique, mais il s'est pris de passion pour elle. Il lui écrit des lettres terribles. Elle va repartir très vite en Inde. Hein. Il va la connaître pendant 3 mois, mais ça ne s'arrête pas là. Parce que quand elle repart en Inde, il se met à lui écrire des lettres, et puis il écrit dans son journal. Puis le temps passe, et puis cette passion dure 6 mois. Et c'est assez navrant, en fait. Ça, je dois dire que quand on lit les lettres de Stern et son journal, c'est un peu navrant.
Donc, c'est pas ça que vous retenez, c'est pas ça qui vous a fait prendre le bateau, puis le bus pour aller jusque dans sa maison. Vous avez beaucoup aimé les jardins. Il y a pas beaucoup de gens, finalement, qui vont visiter cette maison, parce qu'elle est un petit peu perdue. Puis, finalement, c'est pas non plus un endroit qui est sur les routes touristiques. De toute façon, vous aimez pas tellement les maisons d'écrivains, mais vous aimez bien le jardin, Cécile Guilbert, de cette maison.
Oui, parce que je vous ai parlé tout à l'heure de Kenneth Monkman, qui était ce grand chandéen qui a fait beaucoup pour les études de Stern, qui a remis sur pied ce cottage, qui s'y est installé avec sa femme, qui a collationné tous les livres sur et de Stern, traduit dans toutes les langues, et qui a une bibliothèque magnifique. Et c'est un endroit très étrange, parce que c'est un endroit où il y a des tas d'objets qui ont appartenu à Stern ou qui sont en liaison avec l'époque. Et puis il y avait aussi les propres objets des Monkman. Donc quand vous alliez là, moi j'y suis allée parce qu'en fait j'ai adhéré à la société, je suis membre à vie de la société.
Vous avez reproduit votre carte de membre de la société des amis, en effet, dans le livre, pour prouver livre, finalement que vous faites partie du petit cercle.
Oui, non, mais c'est aussi très amusant parce que cette société des amis de Stern, si vous voulez, tous les ans organise un espèce d'exercice rhétorique consistant à faire venir une personnalité qui doit faire un discours lors d'un dîner à l'intérieur de ce cottage et doit faire un numéro de rhétorique à la fois drôle, pleine de fantaisie, pleine d'humour, et donc c'est un exercice, si vous voulez, qui est assez amusant. Bon, j'y suis allé que 2 fois.
Vous l'avez fait en anglais ?
Non, moi je n'ai pas été invité à en faire un, parce que c'est quand même réservé aux Anglais. Je n'aurais pas la prétention de parler assez bien anglais pour le faire, mais j'ai assisté 2 fois, donc j'y suis allé 2 fois à ces soirées du cercle des amis de Stern. Mais bon, en tout cas, le cottage où vivait Stern est tout à fait ravissant. C'est vrai qu'il est, c'est un auteur qui n'est pas du tout populaire en Angleterre comme est Jane Austen ou d'autres auteurs anglais, parce que il est considéré, et aujourd'hui plus que jamais, si vous voulez, il y a même des départements des universités qui ne veulent plus l'enseigner parce qu'il est considéré comme un auteur trop misogyne. Mmh. trop masculino-centré, si vous voulez.
C'est vrai qu'il parle des femmes quand il donne des conseils. C'est son personnage, évidemment, hein, qui donne des conseils sur les femmes. Je ne sais plus si c'est à son neveu. En effet, ce n'est pas très féministe.
Si vous voulez, entre sa mère, sa femme, Elisa Draper et d'autres, si vous voulez, il n'y a pas une image très, très reluisante des femmes. Ceci étant, évidemment, ce n'est pas lui, c'est son personnage. Et donc, il n'est pas un auteur très populaire. Et en fait, les gens viennent surtout visiter son cottage pour leur jardin qui ont été remis à neuf par la femme de Monkman, qui a fait un jardin absolument époustouflant de beauté avec des tas de variétés de roses et des tas de recoins. Et les gens achètent des graines dans la boutique du cottage. Ils n'achètent pas du tout de livres.
Comme quoi être journaliste à la BBC, mais finalement ça mène à tout, y compris au métier de jardinier. Merci beaucoup, Cécile Gilbert, d'avoir brossé pour nous le portrait de Laurent Stern. Je rappelle que vous lui avez consacré un essai à Laurent Stern, un essai qui s'appelle « L'écrivain le plus libre » et qui a été publié en 2004 dans la collection L'Infini de Philippe Solers chez Gallimard. Je signale aussi votre roman « Les Républicains » paru au début de cette année, c'est chez Grasset. Demain, nous serons en compagnie de Guy Jouvet qui a traduit les trois romans de Stern, enfin les deux plus la nouvelle, ainsi qu'une partie de son journal. Et en attendant, je vous signale, chers auditeurs, que vous pouvez vous précipiter chez votre libraire pour vous procurer le dernier numéro de Papier. Papier, c'est la revue de France Culture. Son dossier est consacré au nouveau marché de la croyance. Et puis on y croise aussi pêle-mêle Homer, Christine Angot et Claire Underwood. Tout de suite, Jacques Bonafé.
Bonjour, bonjour la compagnie. Début novembre, Hervé Prudhon, auteur de romans, s'éteignait. Certains se souviennent des polars, Mardi Gris, Tarzan Malade, Warzazat et Mourir. D'autres de Cochin, Venise attendra, La Langue Chienne, et d'autres encore, Sainte Extase, où il fait plus froid dehors que la nuit. Souvent, il couvrait des cahiers de sa poésie. Sa compagne Sylvie Péjus nous a confié quelques-uns des derniers poèmes de Prudhon avant la mort qu'il savait proche et irrémédiable. Il ne fera ni jour ni nuit, ni chaud ni froid. Je ne serai ni moi, ni un autre, sans âme et sans substance. Je ne serai ni le feu, ni le vent, ni le pire, ni l'arbre, ni l'animal, ni la lumière, ni les ténèbres, de moins en moins l'absence, et rien de plus en plus, jusqu'à ce que rien ne dure. Le 1er septembre 17, j'attends la mort. On m'a dit de m'asseoir là. Elle va venir bientôt. Je ne suis pas son seul client. Restez tranquille en salle d'attente. Je suis trop fatigué pour gigoter, mais trop pour attendre longtemps. Je suis au bout du rouleau, au bout du bout, foi d'animal. J'empire sans respirer. J'expire, j'écris mal, parce que j'ai mal. Le 5 septembre, abandonné par le corps médical et le mien, je passe des nuits à perdre haleine. Le ciel est noir et plat. Sainte Rita priait pour moi. J'avais une chienne, elle s'appelait Evita. Elle est morte d'une grosse tumeur, vilaine à perdre haleine. Le ciel est sec, un homme se meurt, un homme gris, amaigri, qui a du chagrin pour la femme qu'il laisse derrière les ombres, dans les décombres de l'amour. Le mal que fait le mot toujours, quand il tourne court. Pour Sylvie, femme en cheveux, tu t'accables sur mon linceul, tu as couru dans les rues pour acheter des jonchées de fleurs, et les rues avaient déjà servi dans des cauchemars. Tu me demandes de te répondre, mais pardon, tu n'as rien dit. Tu es sûr d'avoir dit « je t'aime », mais je ne suis même pas capable d'entendre l'amour dans le souffle du vent. Pourtant, tu le disais souvent, c'était beau comme Léo Ferré. C'était ma chanson préférée. Lâchez prise, disent-ils, à moi qui ne tiens pas, sur ma branche qui se brise, au souffle de la brise. À mon cœur qui s'épuise, je ne tiens plus debout, je ne tiens plus à rien, quand à rien me secoue, je ne tiens plus les rênes de ma vie qui m'entraîne, ma vie qui fut du temps perdu. Je ne rêve pas de plage, d'arbres, de cocotiers, de neige, ni d'îles désertes. Je ne rêve pas de fête, de faste ou de triomphe. Je ne rêve pas d'ailleurs. Je suis très bien ici, dans mon corps, immobile, impuissant, à regarder le ciel et le vent, les nuances de la pluie, les nuages et le temps que je façonne à ma façon. C'est le Prudhon verlénien qui termine avec son humour mordant. J'écris dans un coin de chez moi, en langue vernaculaire des poésies absconses et indirectes, à l'usage inutile de gens qui n'en ont rien à foutre. Et je crois être au centre du monde l'universel prophète.
Merci Jacques Bonafé, vous consacrez cette semaine de poésie à Hervé Prudhon.